Chapitre 5 Départ. Un par un, chacun de son côté, moi en Pékin, Messie sur l'épaule, les cinq autres en forçat, numéro sur le cœur, nous voilà le 6 décembre, oh, tenez, cela pour moi c'est une date, quittant Cayenne, le cœur battant, et l'œil perçant. Je n'ai pas vu à ce moment mes compagnons, mais je me suis vu. Ils ont dû partir dans la rue comme ça, sans un autre air que leur air de tous les jours. S'ils apercevaient un surveillant, ils faisaient demi-tour et marchaient en bon transporté du côté du camp. Je croisais les forçats. Ils me semblaient subitement plus malheureux que jamais. J'avais pour eux la pitié d'un homme bien portant pour les malades qu'ils laissent à l'hôpital. L'un que je connaissais me demanda « Ça va ?» Et sans m'arrêter, je lui répondis « Faut bien. » Moi, je rencontrais aussi maître Darnal, l'avocat. « Eh bien, Dédonné, quand venez-vous travailler chez moi ?» Oh, j'avais une réelle envie de lui répondre « Vous voulez rire aujourd'hui, monsieur Darnal ?» Je lui dis « Bientôt !» Je tombais également sur un surveillant-chef, un Corse. On ne changea pas de propos. Je me retournais tout de même pour le voir s'éloigner. Je ne tenais pas à conserver dans l'œil la silhouette de l'administration pénitentiaire. C'était au contraire, dans l'espoir de contempler la chose pour la dernière fois. Je me retins pour ne pas lui dire adieu. Le premier danger. J'atteignis le bout de Cayenne. La brousse était devant moi. Un dernier regard à l'horizon, et je disparus dans la végétation. Il s'agissait maintenant d'éviter les chasseurs d'hommes. En France, il y a du lièvre, du faisan, du chevreuil. En Guyane, on trouve de l'homme. Et la chasse est ouverte toute l'année. J'aurais été un bon coup de fusil, sans me vanter. La tancière aurait doublé la prime. Fuyons la piste. Et comme un tapir, je m'avançais en pleine forêt. Au bout d'une heure, je m'arrêtais. J'avais entendu un froissement de feuilles pas très loin. Était-ce une bête, un chasseur, un forçat ? Je m'aplatis sur l'humus. La tête relevée, je regardais. C'était Jean-Marie, le Breton. Je l'appelais, oh, qu'il eut peur, mais il me vit. En silence, tous deux, nous marchâmes encore une heure et demie, le dos presque tout le temps courbé, et nous vîmes la crique fouillée. Bruno, Meneuil, Venet étaient là. On se blottit, il ne manquait que deux verrères. Ben, « S'il vient pas, dit Bruno, on aura 500 francs de moins. » Tout est perdu. Bon, j'ai de quoi combler le vide, dis-je. Et l'on resta sans parler. Chaque fois qu'une pirogue passait, nous rentrions dans la brousse, puis nous en ressortions quand elle était au loin. Deverère arriva, les pieds en sang. 5 heures. 5 heures et demie. Tu vois un coup pas, toi ? 6 heures. Oh, le sale nègre ! Mais s'il nous laisse là, les chasseurs d'hommes vont nous découvrir. Rien non plus à 6 heures et demie. Oh, pourvu qu'il ne nous ait pas vendu. Ou le chinois, peut-être. Nous sommes accroupis dans la vase, le cœur envasé aussi. La crique devient obscure. Une pirogue se dessine sur la mer. Elle avance lentement, quoique nos désirs la tirent très lentement, prudemment. Je me dresse, je fais un signe, j'ai reconnu Akupa. La pirogue se hâte, elle est suivie d'une autre plus petite. Le chinois la monte. Eh bien, je puis dire que sur le moment, nous nous mîmes à les adorer, ces deux hommes-là. Ceux qui ont des souliers se déchaussent et nous embarquons. Le chinois saute dans la pirogue avec nous. Il allume sa lanterne. Maintenant, avant tout, il s'agit de payer. Nous sortons chacun nos 500 francs. Bruno, qui n'avait rien préparé, est forcé de les retirer de son plan. Un porte-monnaie intime en forme de cylindre et en fer blanc. Chacun compte et recompte. Il y a de menus billets, c'est long. Quand ils ont recompté, ils recomptent une troisième fois. Vous pensez, il y a des hommes comme De Verrer qui ont vendu la moitié de leur pain pendant 2 ans pour rassembler la somme. C'est leur vie, ces 500 francs. On y arrive tout de même, petit à petit. 500 francs, puis 1 000, puis 1 500, puis 2 000. Moi, je vais bazarder mes coffrets et tous les souvenirs que je voulais rapporter aux bienfaiteurs. C'est dur aussi de se séparer de cet argent-là. Enfin, je le donne. Meneuil fut le dernier. Il trouvait pas le compte. Il s'égarait au milieu de ses billets de 100 sous. Ça me fait mal à l'estomac, disait-il, de les revoir. Il les avait changés, lui aussi, contre son pain. Enfin, les 3 000 francs sont réunis. Le Chinois les prend. Il s'approche de sa lanterne. Et voilà qu'il commence à compter, à vérifier les billets. Et cela avec un tel soin que l'on aurait dit qu'il cherchait sur chacun la signature de l'artiste, auteur de la vignette. Il n'en passa pas un. Cela dura une demi-heure. Après, le Chinois les donna au nègre. Le nègre s'attacha la lanterne au cou et se mit à compter, à vérifier. Il n'alla pas plus vite que son compère. Après, il les redonna au Chinois, qui se remit à les recompter, à les revérifier. Enfin, ce fut fini. Le Chinois les glissa dans sa ceinture. Il souffla sa lanterne, regagna son embarcation, et, silencieux dans la nuit chaude, emportant l'argent du pêcheur, il rama vers son bouge. En route, dit Akupa, et il enleva la pirogue. Alors, 7 mètres de long et 1 mètre de large. Nous sommes 7 dedans. Il fait noir. Nous longeons la forêt vierge. Soudain, comme sur un ordre, les moustiques nous attaquent furieusement. De Verrer, qui est jeune, jeun sous les souffrances. Silence, ordonne Meneuil. C'est pas la peine d'avoir échappé aux chasseurs d'hommes pour les attirer maintenant à cause de 2 ou 3 moustiques. Le jeune se tait, et alors commence le supplice qui durera jusqu'à l'aube. On se caresse sans arrêt la figure, le cou, les pieds, les chevilles, de haut en bas, de bas en haut, dans un continuel mouvement de va-et-vient. Et à pleine main, on les écrase. Ils sont des millions comme vous, vous entendez? Oui, des millions. Oh, j'en ai écrasé pendant 9 heures de suite contre ma peau pour mon compte. La crique à 50 km. Nous n'en sortirons qu'au matin. Akupa pagaye. Meneuil est debout à l'avant et que les moustiques recouvrent comme d'une résille, manie un long bambou. Jean-Marie le reprend, puis je reprends Jean-Marie. Le bambou s'enfonce dans la vase et la manœuvre est exténuante. Mais nous allons. Chacun bâtit d'une vie nouvelle. Dévereur parle de sa mère qui sera si contente. Bruno, qui est boucher, montrera aux Brésiliens comment on travaille à la Villette. Venet, catholique fervent, qui n'a jamais quitté son scapulaire, qui le matin même est allé trouver le curé de Cayenne pour se confesser et communier, nous met sous la protection du bon Dieu. Jean-Marie, qui est breton et par conséquent assez religieux aussi, apercevant la croix du Sud, dit que le ciel est pour nous. Il fera de beaux meubles pour les Brésiliens. Meneuil, avec son seul œil, n'y voit plus clair. Tellement il pleure de joie. Ah, je la tiens cette fois à la belle. Il a 56 ans. C'est la quatrième fois qu'il part à sa recherche. Je ne sais qu'il aspire, mais il ne doute plus. Il chante, ce vieux forçat. Et vous? Moi, j'étais comme les autres. J'entrevoyais le bonheur tout en écrasant mes moustiques. Akupa pagayait comme un sauvage. La crique s'élargissait. On entendait l'appel de la mer. pur la vie. On hissa la voile, cri de joie. Nous avions échappé aux chasseurs d'hommes. Chapitre 6. Et la pirogue sombra. Dites donc, reprit Dieudonné, avez-vous entendu parler du bord des Français? C'est un Ikiri en Guyane anglaise. Là, généralement, les pirogues des forçats en route vers le Venezuela viennent s'asseoir. Et alors? Eh bien, le banc, c'est de la vase, et les forçats s'enlisent et meurent. Nous non plus, on ne tendra pas à s'asseoir. Un coupa est mauvais marin. Il ne sait pas prendre la barre à la sortie de Maori. Il entre dans la pleine mer comme un taureau dans l'arène, donnant de tous côtés un coup de rame saoul. Enfin, grâce au perdant, nous arrivons tout de même à la hauteur des îles Père et Mère. Et le vent tombe et nous sommes forcés d'ancrer. On voit deux barques de pêcheurs au loin. Nous entendons un moteur. Oh, c'est Douez dans sa pétrolette, qui de son île va à Cayenne vendre ses légumes frais. Mais à coup pas, nous reculons, fis-je subitement. Nous tirons sur la corde de l'ancre. La corde vient seule. L'ancre est restée au fond. Nous reculons toujours. On mouille une grosse pierre. La pierre s'échappe de la corde. Nous reculons. Je vais emporter ma presse d'établi pour travailler sitôt libre. Oh, je la sacrifie et nous l'attachons à la corde. La tension est trop forte. La corde casse. Nous reculons de plus en plus vite. Nous pagayons à rebours avec tout ce qui nous tombe sous la main. Moi avec mon rameau, Jean-Marie avec une casserole. Pittoresque à voir, hein? Mais nos efforts n'ont rien obtenu. Le courant nous a rejetés et nous sommes face aux dégrades des cannes. Nous ancrons avec un bambou que nous plantons dans le fond. L'eau bientôt se retire et notre pirogue s'assied sur la vase. Nous pensons tous alors au banc des Français. Et la nuit vient nous prendre comme ça. Des verrères et venaient pleurent. Meneuil le vieux est encore tout bouillant. C'est lui qui les remonte. Je représente votre grand-papa et pourtant moi je ris. Allez, je sens une très bonne odeur. Ma femme qui m'attend depuis 29 ans, cette fois ne sera pas déçu. Enfin, c'est ce qu'il disait. Aussi loin que s'étend le regard, ce n'est plus qu'un banc de vase dont on ne voit pas la fin. Nous décidons de sortir de là, le lendemain, au montant, à la pagaie et à la voile. Les pagaies manquant, nous arrachons les bancs de la pirogue et nous taillons sept palettes. On pagayera à genoux, là tout. Maintenant dormez, dis-je au compagnon. Il faudra être fort demain, je veillerai. La nuit est froide, la lune bleuit les flaques d'eau qui sont restées sur la vase. La lanterne du dégrade des cannes, le seul œil de cette côte réprouvée, cligne au loin. Meneuil ne s'est pas endormi. Déverrer rêve tout haut. Il dit: non, chef, ce n'est pas vrai. Il se débat encore avec la tancière, celui-là. Venez être agité. Jean-Marie ronfle. Akupa graisse des dents sur le tuyau de sa pipe. La nuit passe, l'eau arrive, la pirogue frémit. Debout, vous autres! Akupa est déjà à la barre. Jean-Marie et Meneuil sautent vers la voile. Et nous, nous luttons contre le bon temps qui veut nous rejeter encore. La lutte contre le flot. Nous ne pouvons pas avancer, mais nous ne reculerons pas, nous le jurons. Et pendant 3 heures, nous nous maintenons à la même place, pagayant. Oh, is. Une brise se lève. Hurrah, la pirogue avance. Nous passons la pointe de Montjoly. La brise se fortifie, elle nous emporte. Oh, l'enthousiasme fait valser les pagaies. Nous sourions à Akupa. Nous doublons l'îlot, la mer. Adieu, Douez. Et que tes légumes frais viennent bien. Voici les jumelles. Plus qu'un petit coup et le large est à nous. Le vent, soudain, n'est plus dans la voile. Est-ce Jean-Marie et Meneuil qui l'ont perdu? La voile cherche de tous les côtés. Le vent est parti. La mer nous repousse. Tous à la pagaie. Allez, sept! La mer est plus forte, elle nous renvoie à la côte et nous touchons la vase où la pirogue vient se rasseoir. Et c'est comme l'autre nuit, seulement personne ne veille cette fois. Qui donc ou Moubette viendrait nous déranger ici? Plus même de lanterne à l'horizon comme on dégrade des cannes. Le jour, la marée arrive lentement. Pas de vent, nous prenons nos pagaies. La pirogue n'avance pas. À coup pas, nous commande de ne pas gaspiller nos forces. À midi, nous sentons la pirogue qui se soulève. C'est la vase qui fait soudain le gros dos. Elle ne redescend pas, elle se fige là-haut. Et nous restons dessus. Et la troisième nuit vient amenant le montant. À la pagaie, qu'on crie à coup pas. Le vent est fort, la vague méchante. Nous longeons les palétuviers. Ces palétuviers, de la fièvre en branche. La pirogue avance si vite que nous ne voyons pas fuir les arbres à notre droite. Arrondi à coup pas, crions-nous. Tout d'un coup, après avoir touché plusieurs fois le fond, la pirogue bute. Nos huit efforts donnés à pleine ne la font plus bouger d'un pouce. Nous sommes sur un banc de vase surélevé. Peut-être croyez-vous que la base est pleine, plate comme une plaine. Non, elle forme des escaliers qu'on croirait taillés de main d'homme. Et nous étions au sommet de l'un de ces escaliers. Et la mer, de nouveau, se retire. Et c'est la vase, rien que la vase. Nous nous dressons dans la pirogue. Au lointain, la vase. Le matin arrive, la vase. Enfin, est-ce qu'on va mourir là-dedans? Demandons-nous à Akupa. Et il nous répond qu'on y peut rester pendant une dizaine de jours, jusqu'aux grandes marées. Alors je racontais à mes compagnons l'histoire des mineurs de Courrières. Et j'ajoutais, cela dura 17 jours pour eux, et ils furent sauvés. Akupa dit, il n'y a qu'un seul moyen d'en sortir. À 200 mètres de nous, je vois de l'eau. Donc le fond est plus bas. Si nous y amenons la pirogue, nous avons des chances de flotter à la marée du soir. Flottant, nous sommes sauvés. Pouvez-vous descendre dans la vase et aller la pirogue? Nous arrachons nos vêtements. Attendez, fait Akupa. Écoutez bien la leçon. Vous vous enfoncerez dans la vase, les jambes écartées, le corps penché en avant. Autrement, elle vous avalera. Vous vous agripperez au bordage et, pour marcher, vous retirez les jambes lentement, l'une après l'autre. Nous entrons dans la vase, elle nous aspire jusqu'au ventre. C'est un frisson, cela, vous savez. Mais nous n'enfonçons plus. Nos 14 bras sont bandés autour du bordage. Meneuil crie « Oh, is, garçon !» que lorsqu'il était à Charveil ou à l'âge. Nous tirons de toutes nos forces. La pirogue démarre. Elle avance maintenant de 20 cm à chaque effort. « Oh, is, garçon !» Oh, le succès nous grise, nous crions tous. « Oh, is, ensemble !»« Nom de Dieu !»« Oh, is, oh, oh, is, hardi pour le Brésil !»« Oh, is, garçon !»« Oh, is !» Le soleil nous assomme. Nous n'avons pas des cœurs de demoiselles, mais la vase nous écœure. Toutes les 2 minutes, nous devons nous reposer sur le bordage, tellement nous sommes éreintés. À chaque poussée, nous avançons jusqu'au poitrail. Il est plus pénible de sortir notre corps de la vase que de tirer la pirogue. 2 heures de lutte et nous remportons la victoire. Nous sommes sur la flaque d'eau. Oh, je n'avais jamais vu cet homme plus dégoûtant. Plus de vivre, plus rien à boire. Akupa tire 3 coups de fusil. 50 petits oiseaux de vase dégringolent. Un coupable va les chercher, on les fait cuire. De nouveau, le soir amène la mer. Nous sommes chacun à notre place, la pagaille prête. L'heure est décisive. La mer avance, avance. Elle entoure déjà la pirogue. Montera-t-elle assez pour nous soulever? Comme nous la regardons. Et la pirogue oscille, décolle, lève le bec. En avant les pagayes, et nous raclons le fond de la vase. L'arrière ne démarre pas, hardi les pagayes, c'est notre dernier espoir. Nous raclons farouchement, c'est la nuit noire. Alors, au milieu du silence, un chant s'élève, accompagnant chaque plongée de pagayes. Un chant de la Bretagne où l'on parle du bon Dieu et de la Sainte Vierge, du pays de là-bas. C'est Jean-Marie. Elle flotte, les enfants, hardi, hardi, criai-je. Elle flotte. Elle avance vers la haute mer, butant parfois sur le fond, mais à intervalles espacés. Jean-Marie chante toujours. Nous chantons tous. La pirogue ne bute plus, elle bondit, elle s'éloigne des palétuviers. Tu enverras ta mère de Verrer, crie le vieux Meneuil. Et il ajoute, et moi mon épouse. Au Brésil, clamons-nous tous, au Brésil. Soudain, nous entendons le bruit formidable de la barre qui écume devant nous. Tout le monde se tait. Meneuil et Jean-Marie hissent la voile. La vague est grosse, elle passe parfois au-dessus de nous. Nous franchissons la barre, c'est la pleine mer. La pluie tombe, le vent enfle. Jean-Marie, debout à côté de la voile, ne garde l'équilibre que par miracle. Nous ne pagayons plus, nous vidons la pirogue. Elle offre maintenant le flanc à la lame. « Barre à gauche, Akoupa ! Elle n'obéit plus !» hurle le nègre dans le vent. Jean-Marie n'arrive pas à rouler la voile. Une lame emplit l'embarcation. « Mais videz, asseyez-vous, n'ayez pas peur » hurlai-je à tous. Venez de Verrer, les deux jeunes, criant la mort, debout. Une autre lame, puis une autre encore, oh, nous sombrons. Chapitre 7. L'enlisement de Venet. Et Dieudonné continua. Il faisait terriblement noir. Vous avez l'air un peu fatigué. Si l'on buvait un petit coup de vermouth français, ça m'aurait vu de revivre ce drame. Oh, tenez, j'entends encore les cris d'effroi de Venet de Verrer qui ne savait pas nager. Donc nous sombrons. Quelle heure était-il? Autour de 9 heures du soir. Moi, je sens qu'un drame enroule. Je donne des jambes et des bras, je suis empêtré dans la voile. Ça corde comme pour me pendre traîne à mon cou. Je veux me dégager, demain ma grippe. Qui était-ce? Oh, je ne sais pas. Et on me paralyse. Je me libère, je remonte à la surface de l'eau, j'essuie mes yeux et je vois. Un quart de lune éclairait tout. C'était une scène farouche. Des hommes enlevés par une lame semblaient bondir de la mer. 3 autres hurlants se cramponnaient à la pirogue retournée. Ils cherchaient à la tenir à plein bras, mais ils ne pouvaient pas. Les épaves, des petites boîtes nous servant de mâles où était toute notre fortune, dansaient une gigue diabolique sur la crête des vagues. Et le grondement dramatique de l'océan, oh, je me souviens que ma malle passa à ma portée. Je la saisis comme un avare. C'est curieux, l'instinct de propriété, n'est-ce pas? Je la mis sous un bras. Et je nageais d'un seul. Je vis Jean-Marie qui soutenait Venet et Meneuil avec son œil et ses 56 ans qui entraînait le gosse de Verrer. Vous étiez à combien de la côte? On distinguait les palétuviers, très loin, très loin. Je continue ma nage dans le chemin de lune. Ma petite malle renclait le fond. Elle était pleine d'eau. Oh, je l'abandonnais. Je lève les bras. Je hurle pour rallier les naufragés. Oh, oh! J'entends de divers points de l'océan d'autres. Oh, oh! Tout d'un coup, mon pied touche le plancher. C'est la vase. Je me souviens de la leçon de marché. Accroupi, je trotte sur les coudes et sur les genoux pour éviter d'enfoncer, car si loin de la côte, la vase est molle. J'avance, essoufflé comme un pauvre chien après une course. Oh, oh ! On me répond, oh, oh ! Une ombre passe près de moi et me dépasse, un coup pas. Où sont les autres ? Derrière. Personne ne manque, non là, tous. En effet, trottant comme nous sur la vase molle, voici Brino, Deverère et Meneuil. Courage et gêne, me crie Meneuil, t'en fais pas pour si peu. Il avait du cœur au ventre, le vieux, hein? Jean-Marie est derrière, venait, suit, mais lentement. Avance, lui criai-je, j'ai pas peur. Bientôt, je les perds de vue. Il peut être question de porter un homme, on serait l'enlisement pour tous les deux. Mais ces cochons de palétuvier étaient de plus en plus loin. C'était à s'imaginer que l'administration pénitentiaire les tirait à elle pour nous faire souffrir un coup de plus. Une vieille lymphangite coupait mes forces. J'étais à bout. Je m'accroupis et je m'assieds tout doucement. J'enfonce, mais à peine. Et je me repose là, sous la lune, mes mains tenant mes genoux comme dans un bain de siège. Jean-Marie me rejoint, m'encourage. « Va, patron, me crie-t-il, fais 10 mètres et repose-toi, respire fort, fais encore 10 mètres. Les voilà, les palétuviers !» Ils étaient loin encore. On y arrive 1 heure et demie après. Moi, je suis à bout de mon effort. Jean-Marie me hisse sur des branches, il fait froid, froid. De plus, il pleut, la lune se cache. « Oh, oh, oh !» Cette fois, la réponse est faible. Nous nous endormons. Le froid, la pluie, la faim, le vent nous réveillent. La pluie cesse, les moustiques arrivent. Elle est longue, cette nuit. Le désastre est complet. Nous avons tout perdu. Il nous faudra retourner vers Cayenne, seul point d'homme sur cette rive. Marcher 20 kilomètres dans les palétuviers. Mais comment fera-t-on? Comment retraverser le Mahuri? On est de beaux évadés. Enfin, on n'est pas mort, et après 15 ans de bagne, et voilà le jour. Oh, oh! On nous répond, les autres ne sont pas loin. Ils nous renvoient le cri. Ils viennent vers nous. Les voilà, ils sont propres, ils me font peur. Si j'avais eu le cœur à rire, j'aurais demandé d'où ils sortaient. On se serre la main. Je pense qu'un homme ordinaire eût été renversé s'il avait pu voir ces individus dégoûtants, presque nus, la bouche ouverte par la soif, se serrer les mains au petit matin, avec conviction au milieu d'une mer de vase. Un coupable est gêné. Il cherche à nous expliquer des tas de choses. Meneuil nous fait signe de ne rien lui dire. À quoi bon? Nous avons appris au bagne à ne pas revenir sur la misère passée. Mais où est Venet? Demandai-je en regardant tout autour. Ben, il était avec vous, répondait Verreur. Mais non, jamais de la vie! Venez, venez! Crions-nous tous à la fois comme si déjà nous devinions. Venez! Un long appel faible nous répond. Il vient de la mer. Nous regardons. Venez, venez! Une plainte se traîne dans l'espace. Akupa tend le bras. Il montre un point noir dans la vase. Là, on lisait! Nous grimpons sur les palétuviers. À 800 mètres de la côte, nous voyons un tronc. C'est peut-être un palétuvier solitaire. Ce point-là semble un tronc comme les autres. Venez! Les bras du tronc s'agitent, c'est venez. Venez, camarades, camarades! Une voix sort du tronc, il nous répond. Perché sur mon palétuvier, je retire ma chemise et je l'agite. Mais comment a-t-il fait? Est-ce un suicide, un accident? Il était le plus grand, le plus mince. Et c'est pour cela qu'il s'est enfoncé davantage, or, comme nous l'appelons. C'est tout ce que l'on peut pour lui. Avance, venez, n'aie pas peur. Déjà, la marée le rejoint. Il nous semble que le tronc bouge. N'est-ce pas l'eau autour de lui qui nous trompe? C'était l'eau. Lui ne bougeait pas, mais il criait toujours. Fakupa dit qu'il va partir, qu'il prendra une pirogue au dégrade des cannes et qu'il reviendra le chercher à la marée. Tu vois bien qu'il s'enfonce et que le tronc diminue. Ce sera trop tard. Le nègre s'en va. Accompagnez-le, dis-je. Bruno, Deverer, Mereuil le suivent. Jean-Marie reste avec moi. On plaquera nos pas dans les vôtres, on vous retrouvera, dis-je. Ils partent. Nous déracinons des palétuviers. Nous les poussons devant nous et nous avançons vers le tronc, dans la vase. L'eau le balance, mais il ne le libère pas. Au contraire, il ne reste plus que les épaules et la tête maintenant. Nous nous arrêtons. La vase déjà nous a happés tous les deux jusqu'à mi-cuisse. Nous avons peur. Venez, camarades! La marée l'achève. Il n'y a bientôt plus qu'une tête. Et quand la tête a disparu, il y a encore deux mains. Et nous voyons qu'il n'y a plus rien. Camarades, camarades! Il n'y avait même plus de plainte pour nous répondre. Chapitre 8, le radeau fantôme. Ah, comme ils étaient là quand ils sont revenus. C'est un verre de sa main. Il n'a pas été fait pour nous, pourtant on l'aurait bien mérité. Les trois autres et le nègre qui étaient partis avant nous n'avaient pas brûlé le terrain. On les rejoignit. Pourtant nous ne marchions pas vite. Et venez, demande-t-il. Mais il est passé tout entier. Silence. Et Deverer dit, j'ai soif. Nous sommes dans l'eau depuis 4 jours et nous mourons de soif. Peut-être ces flaques boueuses nous désaltéreront-elles. Nous y goûtons, elles sont salées. Ma jambe, celle qui ne marche pas encore bien, celle-ci, me fait mal, mal. Jean-Marie m'assiste. Il m'aide à passer les cricots. Parfois, un tronc de palétuvier jeté dessus en guise de pont. Par qui? Par quel chercheur de je ne sais quoi? Par des évadés, sans doute. Venez n'est pas seul à dormir dans cette vase. Allons, me crie Jean-Marie, du courage. Nous entrons dans une crique, il me soutient. Nous en sortons, et nous voilà devant le Maluri. C'est marée basse. La vase avait toujours elle. Au moins 5 mètres de vase avant d'atteindre le fleuve. On cherche à faire un radeau et voilà qu'on en trouve un. Où sont ceux qui l'ont abandonné là? Nous le hissons sur la vase. Mais l'entrain n'y est plus. Nous sommes épuisés. Soif surtout, soif. Il y a de l'eau de l'autre côté, dit Meneuil. Il y a de la vie. Oh, 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 que dites-vous? C'est le cri que nous poussions en chassant le radeau. Il me revient, je ne sais pas pourquoi. Pendant des heures, nous travaillons. Tout pour un verre d'eau. Vous entendez tout? C'est la nuit de nouveau. Une lumière apparaît, la lanterne du dégrade des cônes. Ah, la voilà encore, celle-là. Nous montons sur le radeau et ne bougeons plus. Fakupa se met soudain à crier « Oh, du canot! Oh, mouche du canot !» Mot créole appelle au noir des parages. Personne ne répond. Alors je me rassemble mes forces et je me jette dans le fleuve. J'irai à terre chercher du secours, puisqu'il y en a. Je nage. À 100 mètres de la côte, je n'avance plus. Toujours cette sacrée barre. J'essaie de la prendre de biais, puis de tous les côtés. Pas moyen. J'ai la sensation que je vais couler. Je reviens vers l'endroit où j'avais laissé le radeau. Il n'y est plus. Je cherche, je nage mollement. Je fais la planche, les vagues me retournent. Je coule, oh, je n'ai plus la force de lutter. Mes membres sont raides, alors volontairement je ne lutte plus. Je lève les bras, je bois tant que je peux pour abréger le supplice. Mes oreilles bourdonnent. Adieu la belle, et j'oublie tout. Tout à coup, je sens l'air vif sur ma figure. La conscience me revient, je respire, je nage. Je respire et j'appelle. Jean-Marie, Jean-Marie! Oh, pas ici! Une main forte me saisit et me jette sur le radeau. La coupa a disparu. À son appel, un canot monté par deux noirs est venu du dégrade des cannes. Les noirs n'ont voulu prendre qu'Akupa. Ils ont dit à mes compagnons, vous pouvez crever. C'est bien, dit Jean-Marie, que tu sois revenu crever avec nous. Et le radeau vogue. Il va jusqu'à 500 mètres des îles Père et Mère et revient au dégrade des cannes. La lanterne, encore elle. Puis peu à peu, le radeau se disloque, une pièce se détache. Nous commençons à enfoncer. Nous avons de l'eau jusqu'aux hanches, puis jusqu'aux épaules. Nos têtes seules émergent. Il ne reste plus du radeau que les pièces principales. Dever et Bridau veulent se noyer tout de suite. Et je leur jure que nous n'enfoncerons plus davantage. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, je ne suis pas savant, vous savez. Mais on apprend des choses utiles. Au bagne. C'est la loi d'Archimède, dis-je. De qui? En fait, de loi. Ils ne connaissaient que celle des députés, mes copains. Mais Archimède, qu'est-ce qu'elle dit, ta loi? Tout corps plongé dans l'eau perd une partie de son poids égale au poids de volume d'eau qu'il déplace. Or, notre poids actuel sur le radeau est à peu près de 3 kilos chacun. Les bois ont absorbé tout ce qu'ils peuvent boire. Si nous descendons plus à présent, c'est que le radeau ne peut plus descendre. Vous entendez bien? Il a raison, crie Menaya, celui-là, il veut jamais mourir. Et puis c'est le silence. Oh, une sorte d'agonie au gré du courant. On a bien froid, le corps submergé. Notre fatigue est si immense que nous dormons quand même quelques secondes pour nous réveiller quand nos têtes tombent dans l'eau et nous rendormir la minute suivante. Mais comment pouvons-nous nous cramponner si longtemps à ces pièces de bois? Nous pensons tous aux requins et aux marsouins. Nous espérons que ni les uns ni les autres ne nous verront. Les requins nous mangeraient et les marsouins, en voulant jouer avec nous, nous noieraient. Et l'on voit arriver le petit jour. Nos yeux se remplissent d'espoir, nous ne sommes qu'à 1 kilomètre du dégrade. Eh bien, allons à la nage, chercher du secours, Jean-Marie. Et une planche sous la poitrine, nous partons. Allégés, le radeau remonte et les trois compagnons peuvent ramer avec leurs mains. Ils avancent. Plus de fatigue. Jean-Marie seul s'arrête. Un poing le transperce au côté. Il ne peut plus nager. Il fait la planche, couché sur le flotteur. Je nage jusqu'au fort du courant. Mais je suis maté. Il faut connaître ces barres de Guyane pour me croire. Près de nous, un barrage à poissons. Hurrah! Mais nous allons donc retrouver les hommes. Nous montons sur le barrage. Oh! Un canot apparaît avec deux noirs. Oh! Il approche. 50 francs, hurlent les nègres. qu'il y avait 30 mètres jusqu'à la terre. Je proteste, ils s'en vont. Je les rappelle. 2 minutes après, nous touchons le sol. Enfin, nous trouvons à boire. Et il y a des pastèques, que c'est bon. Devant l'argent, les noirs se découvrent des âmes de sauveteurs. Ils vont chercher nos trois compagnons sur le radeau. Les voici. Ce qu'ils boivent, eux aussi. Oh, ils donnent 5 francs aux noirs, toute leur fortune. Les noirs se fâchent, se tournent vers moi. Je refuse de payer. Il y a là un vieux lépreux qui parle d'avertir la police de l'émir. Mais on se divise pour filer tout de suite. Meneuil, Deverer, Brino d'un côté, Jean-Marie et moi de l'autre. On se retrouvera la nuit dans la forêt. Nous savons où. Nous sommes seuls au rendez-vous le soir. Meneuil, Deverer, Brino se sont fait reprendre par des chasseurs d'hommes en longeant Rémire à 15 kilomètres de Cayenne.